commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Dans le nord de la Grèce, la ville d'Alexandroupolis se rêve en capitale énergétique des Balkans pour les années à venir. Alors que la guerre continue un peu plus au nord en Ukraine, la recherche de routes alternatives pour l'acheminement de gaz naturel liquéfié accélère la transformation de la ville en une porte d'entrée au sud-est de l'Europe. Et de fait, avec l'ouverture du gazoduc dit IGB en 2022, reliant la Grèce et la Bulgarie, la coopération transfrontalière a déjà démarré et elle devrait donc s'accentuer avec le développement en cours d'un corridor vertical à destination d'autres pays de l'intérieur des terres. C'est un reportage en Grèce de Joël Bronner.
Alexandroupolis est une ville portuaire du nord de la Grèce, proche de la frontière turque. Une ville du sud-est de la Méditerranée dont l'importance régionale paraît en plein essor. Constantinos Chatzikonstantinou est à la tête de l'autorité portuaire.
Je suis né à Alexandroupolis et toute ma vie, j'ai travaillé dans la région. Je peux vous dire que j'ai vu cette ville considérablement se développer. À l'époque où j'étais un enfant, adolescent, il y avait moins de 20 000 habitants ici. Aujourd'hui, il y en a près de 80 000. À l'heure où je vous parle, en raison de la guerre en Ukraine, la position géographique d'Alexandroupolis est devenue encore plus stratégique. Résultat, progressivement, la ville commence à prendre une dimension de carrefour commercial à l'échelle européenne.
L'accélération du développement local depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie se traduit par l'intensification sur place des activités militaires logistiques de l'OTAN et de la mise en place des infrastructures indispensables au commerce du gaz. De ce point de vue, Alexandroupolis est en train de devenir une porte d'entrée pour le gaz naturel liquéfié, le GNL, notamment américain, en Europe. Un premier terminal méthanier flottant y est sur le point de démarrer ses activités commerciales.
Le principe, c'est que le gaz arrive sous forme liquide à bord de gros navires qui jettent l'ancre à proximité du terminal méthanier flottant. Ce terminal se situe au milieu de la mer, à 5,5 milles nautiques de la côte. Une fois le navire sur place, le gaz est pompé par le terminal et il est ensuite dirigé vers le continent à l'aide d'un gazoduc sous-marin. Ce ne sont pas les autorités portuaires, mais une autre entreprise qui s'appelle Gastrad, dont les actionnaires sont notamment grecs et bulgares, qui contrôle ce terminal et qui s'occupe du commerce du gaz.
Gastrade et son projet de terminal méthanier flottant sont notamment une illustration de la coopération transfrontalière entre Grèce et Bulgarie. Kostis Sifneos en est le directeur général.
Dès l'origine de la conception du projet, le gouvernement bulgare, l'État bulgare, a montré un grand intérêt à y prendre part. À ce moment-là, la Bulgarie dépendait quasi exclusivement du gaz russe et n'avait évidemment aucun accès au gaz naturel liquéfié. À ses yeux, ce projet représente donc depuis le départ une infrastructure stratégique clé pour assurer sa sécurité énergétique. Voilà pourquoi l'État bulgare a acheté 20% des parts de l'entreprise elle-même. En parallèle, la propre entreprise étatique bulgare de distribution de gaz naturel a réservé de son côté 1 million de mètres cubes de capacité gazière pour une période de 10 ans.
Une coopération qui, sur cette question du gaz, a déjà concrètement démarré entre les deux voisins dès 2022, même si, comme le souligne Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, les choses ont pris du temps.
Cela fait plus de 10 ans que les discussions autour de ce projet d'interconnecteur gazier entre la Grèce et la Bulgarie ont démarré. Dès le départ, l'Union européenne a soutenu ce projet tant sur le plan politique que sur le plan financier, en déboursant 250 millions d'euros. Par le passé, 80% du gaz de Bulgarie provenait de Russie. C'était avant que la Russie ne décide de lancer une guerre atroce contre l'Ukraine et une guerre énergétique contre l'Europe. Ce gazoduc change la donne, c'est une nouvelle donne à la fois pour la Bulgarie et pour la sécurité énergétique européenne.
L'interconnecteur Grèce-Bulgarie est aujourd'hui un jalon sur la route d'une coopération gazière accrue entre la Grèce, l'Europe du Sud-Est et l'Europe centrale. Cette route plus large se matérialise par une initiative en cours d'élaboration qui a pour nom le corridor vertical.
Concrètement, le corridor vertical est un couloir d'acheminement du gaz qui va du sud vers le nord, à destination à la fois de l'Europe du Sud-Est et de l'Europe centrale. Le point de départ du corridor vertical se situe donc en Grèce. De là, le gaz prend la route de la Bulgarie avant d'aller plus au nord vers la Roumanie. C'est à partir de la Roumanie que le corridor se sépare en deux routes. Une première route qui prend la direction du nord-est vers la Moldavie et l'Ukraine, qui sont les membres les plus récents de ce projet, et une autre route qui part à l'ouest vers la Hongrie puis la Slovaquie. Tout cela mis bout à bout, nous parlons d'un marché dont la demande en gaz est à peu près comparable à celle de l'Allemagne, donc un assez gros marché.
Le conflit ukrainien a permis d'accélérer la mise en place d'une politique de coopération entre la Grèce et ses voisins en vue du commerce de gaz. Une collaboration dont Alexandroupolis et sa région sont le symbole, et dont Athènes aussi devrait tirer les bénéfices. Porte d'entrée alternative au niveau de l'énergie, la Grèce se forge en effet ainsi une image de pôle de stabilité régionale.
After 14 years, it's time for change. Stop the chaos, turn the page, start to rebuild. Vote Labour.
Les électeurs britanniques sont appelés aux urnes le 4 juillet pour renouveler pour 5 ans les 650 membres de la Chambre des communes du Royaume-Uni, le parti travailliste par grand favori selon les sondages, et un homme, Keir Starmer, devrait, sauf coup de théâtre, devenir le prochain locataire du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre du Royaume. Pour Accent d'Europe, j'ai voulu savoir quelle était l'identité politique de ce nouveau parti travailliste qui s'apprête à prendre le pouvoir. J'ai donc interrogé le chercheur Thibaut Arroy. Il est maître de conférences en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. On l'écoute.
C'est un parti qui avait été conduit vers le centre, presque au centre droit, sous l'impulsion de Tony Blair à la fin des années 90, début des années 2000, qui ensuite a connu une période d'hésitation et notamment dans l'opposition au moment du Brexit, s'est tourné plutôt vers l'extrême gauche sous l'impulsion de Jeremy Corbyn. Et Keir Starmer, lui, a essayé de le recentrer sans toutefois aller aussi loin que Tony Blair peut-être. Et on sent qu'il y a une tension aujourd'hui entre une aile plutôt modérée de centre-gauche, une tension avec les anciens partisans de Tony Blair qui aimeraient au contraire revenir vraiment au centre et assumer un côté libéral. Et il reste malgré tout des soutiens de Jeremy Corbyn, même si lui-même a été exclu aujourd'hui du parti, c'est dire. Mais il reste aussi cette frange très à gauche dans le parti. Et donc peut-être c'est un parti qui se cherche et qui n'arrive pas à véritablement assumer une seule ligne à cause de cette complexité liée au passé et liée aussi aux événements particuliers du Brexit.
Est-ce que c'est ce qui explique la relative timidité de Keir Starmer pour ce qui est de son programme politique pour les, disons, 100 jours qui viennent ?
Oui, tout à fait. Keir Starmer, aujourd'hui, n'arrive pas à véritablement assumer de décisions qui tranchent véritablement avec la politique des conservateurs. Et d'ailleurs, ça lui est reproché dans la campagne. Il ne dit pas grand-chose. Il n'arrive pas à montrer ce que sera véritablement le programme des travaillistes, tout simplement parce qu'on a l'impression que ça sera peu ou prou le même programme que les conservateurs avec une conscience sociale. Et ça ne suffit pas à convaincre les électeurs qui sont marqués à gauche, mais peut-être que c'est une manière d'attirer les plus modérés des conservateurs qui sont déçus par, pour le coup, la tournure très libérale qu'a pu connaître le parti ces dernières années et aussi les évolutions sociales et le discours sociétal du parti conservateur.
Qu'est-ce qui est devenu l'électorat de Jeremy Corbyn, cet électorat de gauche qui avait incarné, disons, l'origine du Parti travailliste, puisqu'il est issu du syndicalisme. Quel est le choix qui s'offre aujourd'hui à un électeur de gauche plus radical ?
Le système britannique fait qu'il n'y a que deux grands partis. Donc à moins que ces électeurs choisissent de ne pas voter, ils n'ont en réalité pas d'autres options valables s'ils souhaitent avoir des élus au Parlement que de voter pour le Parti travailliste, qui d'ailleurs a choisi d'investir des candidats qui sont très différents dans les différentes circonscriptions. Et il y a des partisans de Corbyn qui restent dans le parti et qui certainement ont été investis. Et vu la vague travailliste à laquelle on s'attend après les élections de jeudi, il y aura peut-être des élus qui ne sont pas forcément sur la ligne tout à fait de Starmer, mais qui seront quand même membres du Parlement. Et donc on peut s'attendre avec cette grande majorité, cette majorité très large que les sondages promettent aux travaillistes, est-ce qu'il y ait peut-être quelques tensions même à l'intérieur du Parti travailliste, à l'intérieur de cette grande majorité travailliste entre les différents courants du parti.
Thibaut Arroy, maître de conférences en civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
Sweet Britain, Land of crumble and lemon curd and opportunity. God, I love it.
Et à l'occasion des élections générales britanniques du 4 juillet, Accent d'Europe a également voulu se pencher sur les détenteurs de la double nationalité française et britannique qui sont appelés aux urnes, eux aussi. Ils ont pu voter pour les élections législatives dans leur pays natal, la France, et ils donneront leur voix à l'un des partisans lisses dans leur pays d'adoption, le Royaume-Uni. À la rencontre de ces Européens qui, depuis le Brexit, ont choisi de demander le passeport britannique avec notre correspondante à Londres, Marie Billon.
Arnaud n'a pas réfléchi à deux fois quand la droite conservatrice a annoncé la tenue d'un référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni dans l'Union Européenne en 2015. Il a demandé son passeport britannique.
Je voulais absolument, par principe, avoir le droit de vote. Par méfiance et aussi pour avoir un mot à dire lors des faits marquants de la vie politique. C'est vrai que c'est un petit peu vexant de ne pas pouvoir voter pour les élections législatives. Et j'avais trouvé que, à l'époque, ça faisait déjà une quinzaine d'années que j'habitais à Londres, c'était le moment de sauter le pas.
La première fois qu'Arnaud a voté en Angleterre, donc, c'était lors du référendum de 2016, et il a voté contre le Brexit. Mais ses nouveaux concitoyens ont choisi à majorité de quitter l'Union européenne, ce qu'il regrette. Arnaud est adhérent au parti libéral-démocrate, une formation centriste très pro-européenne, mais qui n'est plus une force politique qui compte dans l'arithmétique britannique.
Avec ce système britannique du scrutin à un seul tour à la proportionnelle, on est en fait dans une mécanique qui broie les troisièmes, on va dire. Donc, si je prends le cas là où j'habite, dans le sud de Londres, le Labour très en tête, les Lib Dems deuxième mais assez loin et les conservateurs encore plus loin. Même si je suis membre des Lib Dems, je vais voter Labour cette fois-ci puisque le candidat est un candidat, on va dire, plutôt centriste. Voilà, j'ai pas envie de prendre le risque qu'à l'échelon national, il y ait une mauvaise surprise pour les travaillistes. Je pense qu'il faut vraiment une grande vague des travaillistes le 4 juillet.
Oui, bonjour, je m'appelle Florence Siromele. Je vis à Londres depuis 23 ans maintenant et j'ai pris la nationalité britannique en 2019, bien sûr à cause du Brexit. Et je me suis dit à l'époque que c'était important de stabiliser ma situation au Royaume-Uni puisque je vais y rester. La motivation principale, c'était que je voulais pouvoir faire entendre ma voix. Parce que quand on travaille dans un pays et qu'on paye des impôts dans un pays, on veut pouvoir avoir son mot à dire sur la façon dont le pays est géré.
Florence, elle aussi, est membre du parti libéral-démocrate. Elle a même été candidate à des élections locales. Cette Française a déjà voté par la poste.
Alors, c'est un vote de cœur. Donc, ma circonscription est à grande majorité travailliste. Donc, je pense que, bien entendu, le candidat travailliste va être réélu. Mais je pense qu'il est très important de faire entendre d'autres voix.
Véronique aussi a déjà voté. Elle a été très active dans la campagne In Limbo pour les droits des Européens vivant au Royaume-Uni, inquiets et malmenés par le Brexit. Elle vit en Angleterre depuis 40 ans. C'est la sortie de l'Union Européenne qui l'a poussée à prendre la nationalité britannique. Elle se sentait chez elle avant le référendum. Elle s'est sentie rejetée après. Mais devenir britannique est un processus coûteux, près de 2 000 €. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre.
J'ai une chance folle parce que là, je vais voter tactiquement contre les conservateurs, mais aussi avec mon cœur pour Vera Obraus, qui est libéral-démocrate. Et je vais voter pour tous mes amis, tous les étrangers qui en bavent tellement avec les conservateurs, mais aussi tous les Britanniques qui sont pauvres, qui sont vieux, qui sont malades, qui sont handicapés, parce que c'est catastrophique ce qui se passe ici.
Mathilde vit à Londres depuis 18 ans. Elle vient tout juste de recevoir son passeport britannique. Sa cérémonie de naturalisation a eu lieu au printemps. Elle se prépare à voter pour la première fois en tant que citoyenne du Royaume-Uni.
Je savais que les élections allaient arriver, donc j'étais surprise qu'elles viennent en juillet plutôt qu'en automne, puisque c'était plus ou moins ce qui était prévu. Mais au final, je les accueille parce que le plus tôt on pourra voter, le mieux ce sera pour que les choses commencent à changer. Bien sûr que j'espère que les choses s'arrangeront, que les listes d'attente de la NHS diminueront, que le recrutement des profs dans les écoles s'améliorera. En même temps, je me dis que peut-être que ça ne va pas s'améliorer. Alors, tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas s'empirer. Mais je ne suis pas extrêmement positive. Franchement, Je me méfie d'un peu tout le monde maintenant.
Mathilde votera travailliste le 4 juillet. C'est le parti qui lui correspond le mieux, dit-elle. Même si cette formation n'entend pas revenir dans l'Union européenne, la gauche souhaite avoir de meilleures relations avec ses voisins européens.
La chronique en un mot pour terminer cette émission. Et ce mot, c'est Ofnice. Il nous vient tout droit de la République tchèque. Et il a été décliné dans de nombreuses langues européennes. Il a donné obusier en français, Howitzer en anglais. Et il faut l'entendre aujourd'hui dans sa langue d'origine pour mieux comprendre une initiative tchèque pour fournir des obus à l'Ukraine en guerre, comme nous l'explique notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig.
152 mm kanónová houfnice se začala vyrábět.
Dans cette vidéo diffusée par l'armée tchèque, il est question de houfnice montée sur un camion blindé, l'un des modèles envoyés aux soldats ukrainiens. Houfnice, c'est l'un des mots tchèques qui a été adapté dans de nombreuses langues au cours des siècles. Obusier en français, howitzer en anglais, haubitze en allemand. Quasiment toutes les langues européennes ont adapté ce terme, dont l'histoire remonte à plusieurs siècles. Ceci est le bruit d'une Houfnice mise à feu pour une reconstitution de bataille durant les guerres hussites qui remontent au XVe siècle dans les pays tchèques. Contre les croisés, les hommes du guerrier Jan Žižka utilisaient cette forme de canon montée sur des roues en bois. Houf désignant une foule, l'arme Houfnice était destinée à être tirée sur des bataillons entiers pour faire le plus de dégâts possible. Les Tchèques ont une longue tradition de savoir-faire pour la fabrication de matériel militaire et au siècle dernier, l'industrie de la défense est devenue un pan important de l'économie du pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nazis ont envahi la Bohème et la Moravie dès 1939 pour faire main basse sur cette production essentielle à l'effort de guerre.
In the back streets of Tel Aviv, Jerusalem and Jaffa, the thugs of both sides build up the armored cars for war against each other. In between them, victims of the
Après la Deuxième Guerre mondiale, Prague fournit une aide militaire cruciale au nouvel État d'Israël, puis c'est rapidement pour le compte de Moscou que les canons et autres armes fabriquées par Prague sont livrées aux pays du pacte de Varsovie ou à des pays du tiers-monde dont certains luttent alors pour leur indépendance. Les obusiers tchèques, parmi d'autres armes fournies à l'époque, jouissent toujours d'une bonne réputation dans plusieurs régions du monde. Depuis 2 ans, c'est désormais l'Ukraine qui bénéficie de l'aide militaire de la Tchéquie, qui lui livre notamment des Houfnice montés sur des véhicules, mais qui aussi, comme annoncé par le président tchèque Petr Pavel, ancien général de l'OTAN, organise l'achat mutualisé d'obus dans le monde pour les livrer à l'armée ukrainienne.
On a déjà envoyé plus que 1 million de la munition lourde à l'Ukraine depuis le début de l'invasion. On a aussi envoyé par ce même mécanisme beaucoup, des dizaines, des centaines de la technique lourde comme les chars, les véhicules blindés, les obusiers.
Tomáš Kopečný, chargé pour le gouvernement tchèque de l'aide à l'Ukraine, revient lui aussi aux obusiers, le terme français donc dérivé de houfnice en tchèque. Et ce n'est pas la seule arme que la langue tchèque permet de définir de manière universelle, puisque le pistolet est un mot qui trouve lui aussi ses racines en bohème. En ces temps troublés, le commerce des marchands de canons en Tchéquie ou ailleurs se porte hélas plutôt bien. Il faut cependant aussi noter que les Tchèques se sont également spécialisés dans la fabrication de faux obusiers, des houfnice factices et gonflables, montés sur des véhicules militaires tout aussi gonflables pour tromper l'ennemi.
C'est la fin d'Accent d'Europe, une émission réalisée par Françoise Grelot. Restez avec nous sur RFI. À demain.